Alors, moi, l'intitulé qui m'a été proposé pour mon intervention, vous l'avez lu sur le document, c'est les évaluations dans une perspective de formation. Alors, j'aime beaucoup cet intitulé parce qu'il est très vague et que ça me permet donc d'être très libre. Évaluation de quoi, de qui, formation de qui, pourquoi, enfin tout ça, on va essayer de le préciser au fur et à mesure. Donc, c'est un titre qui me permet de parler de ce que je juge utile d'évoquer avec vous. Alors, je vais faire trois temps. Un premier temps où je vais essayer d'explorer assez largement la question de l'évaluation, mais vous avez beaucoup de littérature sur ce sujet-là. Alors je vais renvoyer à un peu de littérature, peut-être d'entrée de jeu, et notamment à une excellente note, dossier de veille de l'IFE, puisque nous sommes accueillis ici, il faut que je rende à César ce qui lui appartient, évaluer pour mieux faire apprendre. Vous avez beaucoup d'éléments de référence, beaucoup de bibliographie dans cette note de veille qui est tout à fait essentielle. Il y a également des éléments que nous sommes en train de rassembler progressivement sur le site Éducation prioritaire. Ensuite, je reviendrai au référentiel, parce que je ne peux pas m'en empêcher et que j'essaierai de redire un petit peu comment, pourquoi le référentiel dit ce qu'il dit sur la question de l'évaluation. Et je terminerai en restreignant le propos à les évaluations des élèves utilisées dans une perspective de formation des professeurs. Je précise un peu la commande pour réussir à la tenir. Alors, si on accepte l'idée assez générale qu'évaluer, c'est prélever de l'information sur quelque chose pour en faire quelque chose d'utile, une idée un peu comme ça générale, on voit tout de suite que cette question est extrêmement difficile. Alors pourquoi? Premièrement, de quel droit prélève-t-on des informations? Prélever des informations, c'est un travail particulier. De quel droit va-t-on prélever ces informations? Il va donc falloir avoir une légitimité à prélever des informations. On n'est pas dans la vie courante, on est dans la vie scolaire. Quelle est notre légitimité à prélever des informations dans la vie scolaire? De quelle manière prélever des informations? Il y a de multiples manières de prélever des informations. On a vu tout à l'heure que pour l'école maternelle, il était particulièrement recommandé de développer l'observation. L'observation et la notation des observations, c'est une manière de prélever de l'information. Comment s'assurer de la qualité de l'information prélevée? Parce que quand nous prélevons de l'information, l'information que nous prélevons peut être de plus ou moins bonne qualité. Et il faut nous assurer de la qualité de cette information si nous ne voulons pas nous tromper dans ce que nous allons en faire par la suite. Je pense que c'est important aussi. Et puis, comment s'assurer que cette information que nous prélevons correspond bien à la visée que nous avons, c'est-à-dire à ce à quoi elle doit être utile? Comment nous assurer que cette information va correspondre à une action envisagée par rapport à laquelle elle va être pertinente? Donc, vous voyez bien que cette première réflexion qui nous amène à parler de la relation entre évaluation et action nous entraîne sur un terrain qui est celui de l'éthique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évaluation sans une éthique, que j'appellerais volontiers une éthique assez pratique, c'est-à-dire en prise avec les réalités quotidiennes. Et en même temps, on voit bien que la question de l'évaluation est une question éminemment politique. Éminemment politique au sens noble de ce terme, et qui pose la question de qui détient le pouvoir d'évaluer quoi et pourquoi. Parce que détenir le pouvoir d'évaluer, c'est bien détenir un pouvoir. D'où nous vient ce pouvoir d'évaluer? De quel droit évaluons-nous? Donc je prends la question maintenant un tout petit peu sous un autre angle, mais vous allez voir qu'on va se rejoindre. Le développement de la fièvre évaluative. C'est un mot utilisé par Charles Hadji, la fièvre évaluative. C'est un développement relativement récent. Il est notamment lié au développement de la modernité, ou ce qu'on appelle parfois la postmodernité, à la rationalisation des processus de production. Il est lié à la recherche de l'efficience, c'est-à-dire la même chose pour moins cher. Il est lié à la recherche de l'efficacité, c'est-à-dire la même chose pour moins d'efforts, ou plus avec le même effort, vous pouvez choisir ce que vous préférez. Dans ce cadre politique, On peut dire aujourd'hui que l'évaluation scolaire est au niveau national fortement liée à ce que nous ont appris les comparaisons internationales. C'est-à-dire que ce qui va légitimer aujourd'hui notre besoin d'évaluation, c'est le fait qu'il ait existé des évaluations internationales qui nous ont montré un certain nombre de choses sur l'école de France et qui sont finalement à l'origine de la refondation de l'école. Vous vous souvenez que quand Vincent Peillon a présenté la refondation de l'école, il l'a présenté en relation avec les comparaisons internationales, avec les données de PISA, et notamment avec les données de PISA 2012, qui nous montraient notamment que nous sommes l'un des pays les plus clivants sociologiquement quant aux résultats scolaires. Et que donc, si nous avons une légitimité à évaluer, c'est parce que nous avons cette visée qui est celle de la refondation, qui est la réduction des inégalités sociales en tant qu'elles ont des effets sur les résultats scolaires de nos élèves. Ce que je dis là n'est pas seulement valable pour la refondation de l'éducation prioritaire, c'est valable partout, parce que des élèves de milieux défavorisés, il y en a partout, pas qu'en éducation prioritaire. Ce qui caractérise l'éducation prioritaire, c'est bien sûr qu'ils sont plus concentrés, parce qu'il y a des phénomènes de ségrégation urbaine qui sont passés par là. Mais des élèves qui rencontrent des difficultés, on en trouve partout. Ce sur quoi j'insiste, c'est que nous sommes légitimés à évaluer nos élèves pour qu'ils soient moins victimes de l'impact social sur les apprentissages. Et nous devons penser notre processus d'évaluation, nos évaluations, en fonction de cela. Nous sommes légitimés à les évaluer pour améliorer leur réussite, pour faire en sorte, comme dit l'article L111.1 du Code de l'éducation que Jacques Bernardin aime citer comme moi, tous peuvent apprendre, tous peuvent progresser. C'est parce que tous peuvent apprendre, tous peuvent progresser, que nous sommes légitimés à évaluer pour que tous apprennent et progressent. Je ne sais pas si je suis assez clair dans ce que je dis là. C'est bien un projet politique national qui porte cette légitimité-là, qui nous donne un cadre de travail, à la fois pour l'enseignement et pour l'évaluation. Alors, à partir de cette légitimité de l'évaluation des apprentissages des élèves, rappelez que si nous voulons que l'évaluation soit utile, il faut aussi, j'aime beaucoup citer Guy Berger, qui est un professeur de sciences de l'éducation honoraire, aujourd'hui un monsieur très âgé, mais toujours actif, notamment dans le domaine universitaire, qui dit il faut qu'elle soit juste, cette évaluation, il faut qu'elle soit juste dans deux sens. Juste au sens de la justesse, c'est-à-dire que ce que nous devons nous donner comme élément d'évaluation de ce que nous faisons ou élément d'évaluation de ce que font les élèves doit être précis, doit être fondé rationnellement, doit être aussi scientifiquement contrôlé que possible. C'est l'idée d'une justesse de l'évaluation. Et puis, il dit, ça doit aussi être juste au sens de la justice. C'est-à-dire qu'il est exigible, dans les grands pays démocratiques, que l'on soit juste à l'endroit de chacun, que l'on soit juste vis-à-vis des élèves, vis-à-vis de leur activité, que l'on soit juste vis-à-vis de leurs efforts, que l'on soit juste vis-à-vis de leur développement propre, mais là, au sens de la justice. Justesse, c'est-à-dire précision, et justice, c'est-à-dire la question du respect dans les démocraties. Alors, évidemment, pour réussir à la fois à aller dans le sens de ce qui nous est demandé, c'est-à-dire réussir à réduire nos écarts de résultats et en même temps être juste dans les deux sens que je viens d'évoquer, il faut maîtriser l'évaluation et ses conditions d'exercice, parce qu'il en va aussi de l'éthique de cette évaluation. Maîtriser l'évaluation et ses conditions d'exercice, en réalité, le problème est très simplement posé quand on pense qu'au fond, nous ne pouvons pas ne pas évaluer. Vous êtes en train de le faire. Vous me regardez, vous m'écoutez, et vous êtes en train d'évaluer. Quand j'étais inspecteur de l'éducation nationale, je rentrais dans une classe, j'avais tout de suite une idée de ce que je voyais dans la classe. J'avais déjà, en entrant dans la classe, un a priori évaluatif. Un professeur avec ses élèves passe son temps à avoir des a priori évaluatifs, à avoir des estimations, des jugements, des débuts de jugement, des idées, en tout cas des opinions sur ce qui est en train de se passer dans la classe, de ce qui est en train de faire l'élève. Dès qu'on regarde un élève au travail, on évalue. On ne regarde pas comme ça, on évalue. On a un avis sur ce qu'il est en train de faire, immédiatement. Donc on ne peut pas ne pas évaluer. Ça fait partie de nos métiers. Quand on est dans des systèmes de relations humaines, on émet des jugements intérieurs. Alors ensuite, une autre question va être de prononcer des jugements. Et c'est là que la maîtrise est exigible. C'est-à-dire qu'autant dans ce que nous faisons, je dirais de façon spontanée, un peu intériorisée, ça nous appartient, autant à partir du moment où il va falloir mettre en partage, mettre en commun, nous devons maîtriser ce que nous faisons. Au-delà du processus évaluatif spontané, il faut essayer d'en apprécier la valeur et d'en connaître les limites. Parce qu'on peut avoir de très bonnes intuitions, hein, ce n'est pas le problème. Une intuition, c'est souvent très très moteur dans ce que nous faisons. Mais en même temps, on a intérêt au-delà à maîtriser pour être bien au clair sur ce que nous faisons, être utile, en faisant attention à quelques tendances qui sont connues. Alors là, bon, je vous renvoie à la constante macabre, je vous renvoie à toutes sortes de littératures sur ces sujets-là que vous avez peut-être déjà fréquentées. Mais par exemple, première chose, nous avons des stéréotypes. Les stéréotypes font partie de la vie. C'est normal d'avoir des stéréotypes. Les stéréotypes, ça nous aide à mettre de l'ordre dans le monde. On en a besoin. Mais en même temps, les stéréotypes constituent des limites pour comprendre le monde, pour comprendre, disons, la complexité du monde. Donc, en évaluation, nos stéréotypes sont à la fois des appuis, mais ce sont aussi des risques, ce sont aussi des dangers. Nous avons une tendance assez naturelle, assez partagée, à juger en oui, non, bien, mal. Je pense que c'est... D'ailleurs, regardez le nombre, la quantité, l'extraordinaire quantité de production pseudo-intellectuelle qu'on peut trouver dans la presse, diverse, je ne la juge pas, sur les avis que les uns ou les autres ont, c'est bien, c'est mal. C'est normal de penser en c'est bien, c'est mal, c'est quelque chose qui est très largement partagé. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais je dis que quand on s'attaque à la question de l'évaluation, là on court un risque, parce que ce n'est pas ça qui est demandé. C'est de produire une information utile. Et bien mal, ce n'est pas une information utile. Ça ne sert à rien. Ça sert à d'autres choses, sûrement. Il y a un autre cadre dans lequel ça peut être utile, mais pas dans le cadre de l'évaluation scolaire. Nous avons tendance à comparer et à classer. Vous savez à quel point les enfants eux-mêmes, dès qu'ils rentrent à l'école, sont avides du classement. Ils classent, ils se classent. Ils disent, on n'a jamais donné de classement dans une classe donnée, mais les gosses savent qu'ils ne sont pas le premier de la classe, qu'ils ne sont pas, peut-être pas le dernier non plus. Ils ont classé implicitement la classe, même si les professeurs ne donnent pas de classement. Il fut un temps où les classements étaient normaux et habituels. Hein. J'espère qu'aujourd'hui, on est en train d'évoluer sur cette question-là. Nous avons tendance à inscrire notre action dans une relation. C'est normal, entre êtres humains, on est dans la relation. Mais le problème de la relation, c'est que je suis qui je suis et les autres sont qui ils sont. Et que, spontanément, nous sommes attirés par certains, moins attirés par d'autres. Ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Et le problème en évaluation, c'est que ça, si ça a un effet sur l'évaluation, je pense toujours à cette situation, par exemple, dans une classe, une chose très, très, très simple qu'on a vue quand on a travaillé, par exemple, sur les questions de grande pauvreté, les enfants qui ne se lavent pas souvent et qui sentent mauvais. C'est quelque chose qui arrive dans les classes, notamment dans nos quartiers. C'est un problème pour les enseignants. C'est une difficulté à surmonter. Ça peut être quelquefois désagréable. Mais il faut trouver le bon équilibre. Nous avons à nous adresser à tous. Or, nous savons, par expérience humaine simplement, que nous ne sommes pas attirés par tous de la même manière. Alors, je ne parle pas du fait que le regard est plus attiré parce qu'il y a de la lumière, par exemple. Ça peut arriver aussi. Hein. Les élèves qui sont du côté de la fenêtre, on les regarde plus que ceux qui sont du côté du sombre. C'est quelque chose qui existe aussi. Mais ce n'est pas de ça que je parle là, je parle de choses sociales et de choses humaines. Donc il faut que nous fassions attention à ça. Nous avons tendance aussi à choisir radicalement ou à hésiter, ça dépend qui on est, entre la justesse et la justice. Alors la caricature de ça, c'est la personne qui vous dit « moi je suis dur mais juste ». C'est quelque chose qu'on entend dans les... Dans les évaluations, dans les salles de maîtres ou dans les salles de professeurs. On hésite parfois entre la justesse et la justice. On se dit, est-ce que celui-ci, je dois lui dire la vérité ou est-ce que, pour être plus juste au sens de la justice, je dois reconnaître son effort tout en lui disant pas exactement la vérité sur ce qu'il a dit. Pour les enseignants, c'est un dilemme professionnel énorme. Ils sont constamment confrontés à ça. Et il vaut mieux se dire que c'est un dilemme professionnel que faire comme si ça n'existait pas. Parce que je pense qu'il vaut mieux travailler cette question-là que la mettre de côté, la balayer. Alors enfin, dernier point que j'évoque, mais il y en aurait peut-être des tas d'autres auxquels je n'ai pas pensé, vous compléterez tout à l'heure, le fait que ce que nous évaluons ne dépend pas obligatoirement de ce qui s'est passé, de ce qui a été fait ou de ce qui n'a pas été fait. Quand nous évaluons, par exemple, des élèves après une leçon, nous ne sommes pas du tout sûrs que le fruit de ce que nous voyons soit le fait ou pas de la leçon. Derrière ça, il y a toute la question de ce qu'on appelle parfois les curriculums cachés. C'est-à-dire qu'on peut en fait, dans un moment d'apprentissage où on croit qu'on va apprendre quelque chose, en fait, ils ont appris autre chose, par exemple, puis on ne s'en est pas vraiment aperçu, on a cru qu'ils apprenaient ça, mais en réalité, non. Enfin, vous voyez, il y a tout ce problème-là. Dans le processus évaluatif, il y a des situations de cette nature qui sont parfois un peu complexes à repérer. Alors, à partir de là, sept problèmes sur l'évaluation, cette question qui influence le processus évaluatif. Alors, je ne vais pas rentrer très, très à fond dans chacune d'entre elles. Si vous voulez, on pourra en reparler tout à l'heure. Mais il me semble qu'il faut que nous soyons à même de répondre quand nous évaluons à quelques questions. Quel est le contexte? Quel est le cadre? Ça, c'est peut-être vrai pour tout ce que nous faisons, d'ailleurs. Quel est le contexte? Quel est le cadre? L'évaluation dans le contexte... De l'école, dans le contexte du périscolaire, dans le contexte de la famille, le contexte de la relation, est-ce que c'est dans une situation de relation duelle, est-ce que c'est dans une situation de relation devant d'autres? Ce n'est pas du tout la même chose. Le contexte. Deuxièmement, qui évalue? Quel est l'évaluateur? Quel est l'évaluateur? Est-ce que l'évaluateur, c'est l'élève lui-même? Est-ce que c'est le professeur? Est-ce que c'est la classe? Le parent, l'évaluateur, bien être au clair sur ce sujet-là. Quand évalue-t-on? Dans quelle temporalité évalue-t-on? On sait qu'on peut évaluer avant. On nous a recommandé de développer les évaluations diagnostiques à l'entrée au CE2. Ça, c'est une forme. On peut évaluer pendant l'apprentissage. Quand on parlait tout à l'heure des observations, à la maternelle, c'est évidemment des observations au cours de l'apprentissage, pendant les activités. On peut observer après l'apprentissage, au début d'un cycle, en cours de cycle, en fin de cycle. Enfin, la temporalité de l'évaluation, ce à quoi elle va renvoyer, c'est aussi un point très important. Et ensuite, pour quel motif ou pour quel objectif on évalue? Alors là, on peut en trouver, on peut en lister des quantités, hein. Qu'on appelle parfois l'évaluation formative, c'est pour que l'élève apprenne mieux, pour débloquer des apprentissages, pour réorienter l'enseignement, pour comprendre son effet, pour le réorienter, une sorte de fonction pédagogique, en quelque sorte, de l'évaluation. On évalue pour informer les parents, pour orienter l'élève, on appelle ça quelquefois la fonction de prédiction, etc., etc. Vous retrouvez ça dans tous les ouvrages sur la question de l'évaluation. Après, il y a la fonction certificative, enfin bon. Pour qui on évalue? Qui est le destinataire de l'évaluation? Est-ce que le destinataire de l'évaluation, c'est l'élève? C'est le collègue? C'est le parent? C'est la société? C'est les usagers? Les évaluations internationales, le destinataire des évaluations internationales, c'est censé être les décideurs, au sens des politiques. Les comparaisons internationales sont faites pour eux. Et en même temps, les comparaisons internationales sont utilisées en permanence dans le débat public. Bon. Ça pose la question de savoir quel est l'usage de ces évaluations par rapport à leur destinataire. Ensuite, il y a le quoi, c'est-à-dire ce qu'il s'agit d'évaluer. Alors là, il y a des mots très divers qui sont utilisés dans toutes sortes de littératures. Vous retrouverez évaluer la maîtrise d'une compétence, évaluer la maîtrise d'un savoir-faire, évaluer la détention d'une connaissance, la détention d'un savoir, évaluer une performance dans un contexte donné. Enfin, vous voyez, chaque fois, le quoi, c'est qu'est-ce qu'il s'agit d'évaluer ? Évaluer les progrès d'un élève, évaluer les effets d'une politique. Il y a beaucoup d'ambiguïté dans les outils d'évaluation que nous avons produits au fur et à mesure du temps en France de ce point de vue-là. On avait pensé au départ que l'ADEP serait avec moi pour travailler la question. On avait évoqué la question avec Daniel Auverlo, mais il ne pouvait pas être là, malheureusement, parce que l'ADEP a un rôle qui est un rôle précis d'évaluation du système. L'ADEP évalue le système. L'ADEP n'a pas un rôle, c'est pas son rôle, enfin, dernièrement en tout cas, c'est pas le rôle de l'ADEP de produire des outils pédagogiques pour la classe. L'ADEP, c'est un organisme d'évaluation du système. Et elle produit d'ailleurs des informations qui ont vocation à être mises à disposition de tous ceux qui pensent sur le système éducatif. Elle fait de la production d'évaluation de masse ou de la production d'évaluation sur la base de panels ou de la production d'évaluation sur la base d'échantillons. L'ADEP, par exemple, ne va malheureusement pas pouvoir nous dire établissement par établissement, réseau par réseau, je devrais dire plutôt réseau par réseau, ni même département par département, ni même académie par académie, si nous atteignons l'objectif de réduction à moins de 10% des écarts. Dans l'état actuel du fonctionnement de l'ADEP, l'ADEP ne produira pas ça. Elle ira jusqu'à produire l'écart de résultats entre éducation prioritaire et hors éducation prioritaire au niveau national. Elle pourra peut-être le faire à un moment donné au niveau académique, mais elle ne descendra pas plus bas. Ce n'est pas son rôle. Elle est sur l'évaluation de système. Or, comme l'évaluation de système, c'est 30 académies, un ministère et le dialogue entre les deux, voilà ce que fera l'ADEP. Il faut donc que ce soit nous qui nous emparions d'autres niveaux pour travailler la question de l'évaluation. On en a parlé et on en reparlera avec les correspondants académiques parce que c'est des sujets sur lesquels il faut quand même qu'on avance et qu'on ait à la fois des outils pour la pédagogie dans la classe et des outils pour le pilotage des réseaux. Alors ensuite, il y a la question de quels outils, c'est la dernière. La question de quels outils, des outils pour quoi faire, des outils pour mesurer, des outils pour dire ce qu'on doit évaluer, par exemple des référentiels, le socle commun. C'est un référentiel pour dire ce qu'on doit évaluer chez les élèves. Des outils pour restituer l'information à son destinataire. Vous avez vu que la ministre vient de communiquer sur ce sujet-là. Ça a été évoqué tout à l'heure aussi par Evelyne Collin. La ministre vient de communiquer sur ce qui est du socle commun, c'est-à-dire 6 ans jusqu'à la fin de la classe de 3e, jusqu'à 16 ans, hein, 6-16 ans. Elle vient de communiquer sur le bulletin scolaire et sur le livret scolaire qui suit l'élève. Bulletin scolaire qui est strictement désormais calé sur le socle commun. Je pense que vous avez vu ça. Ça, c'est un aspect de l'évaluation qui est la communication de la restitution de l'information aux destinataires que sont les parents d'élèves. Derrière, il y a tout un travail à faire pour produire des éléments d'information qui rentrent dans ce cadre et qui, par ailleurs, servent aussi à autre chose, régulation de l'enseignement et aide aux élèves. Voilà. Alors maintenant, je reprends rapidement ce que dit le référentiel. Donc le référentiel, vous le connaissez bien. Donc je vais pas vous assommer avec des choses que vous connaissez bien. Mais il y a dans le référentiel deux endroits où l'évaluation est traitée explicitement, et puis il y a d'autres endroits où c'est évoqué, mais pas explicitement. Alors je vais redire où c'est évoqué explicitement, et puis je vais essayer de pister ceux où c'est pas évoqué explicitement. Le premier endroit où c'est évoqué explicitement, c'est dans le second axe, une école bienveillante et exigeante, l'évaluation est présente sous la forme l'évaluation des élèves. Donc là, c'est très explicite, c'est très clair, l'évaluation des élèves. On aurait peut-être pu écrire, d'ailleurs, quand on y repense au référentiel, parfois on aurait envie de préciser la pensée, l'évaluation des acquis des élèves, l'évaluation des apprentissages des élèves, plutôt que l'évaluation des élèves. Mais bon, ça se discute. Il fallait aussi avoir un texte qui soit un texte ramassé et court. Donc, je commente d'abord le passage explicite, rapidement. L'erreur, statut de l'erreur. L'erreur, c'est bien ce qui apparaît quand on évalue. Ça peut apparaître à l'élève lui-même, ça peut apparaître au professeur, mais l'erreur apparaît quand on évalue une production dans laquelle elle se produit. Il y a bien un travail à faire sur le statut de l'erreur. Et je pense que sur ce point-là, le référentiel est très clair. L'erreur est une information sur les apprentissages en cours et elle doit être traitée comme telle. Il n'y a pas l'erreur, c'est bien, c'est mal. Il n'y a pas l'erreur, c'est 0 ou c'est 1. L'erreur, c'est une information sur les apprentissages en cours. Ça, on a beaucoup insisté là-dessus. Tous les éléments dont on dispose sur les questions de recherche autour de ces sujets-là sont clairs. Il est dit que l'évaluation doit poser des objectifs exigeants, mais doit développer une conduite bienveillante. Ça veut dire que dans l'évaluation, quand nous évaluons, il n'y a pas de mots agressifs. On a pu parfois voir ça. Je crois que la pire chose que j'ai vue dans ma vie d'enseignant là, c'était un collègue qui avait écrit à un élève « ne peut pas mieux faire ». C'est d'une violence atroce, atroce. Mais c'était un collègue avec lequel je déjeunais le midi. Hein. Ah oui, quand on est prof, on est ensemble, on vit une vie de... En plus, on était des exilés en province, tout ça, mais bon, voilà. Ça peut amener à des risques professionnels. En tout cas, voilà, ça existe aussi, il faut faire attention à ça. La conduite bienveillante, bon, on en a déjà parlé, je pense, un peu de la bienveillance. Ensuite, il y a la question de la valorisation. Alors, on a dit, dans le référentiel, il faut valoriser, évaluer, c'est donner de la valeur. Évaluer, c'est donner de la valeur. À quoi faut-il donner de la valeur? Il faut donner de la valeur à l'investissement dans le travail, reconnaître l'investissement dans le travail, donner de la valeur au travail lui-même et donner de la valeur au progrès obtenu. Je crois que si on fait ça, on a déjà gagné énormément dans la vie d'une classe et dans la vie des élèves. C'est ce qu'on valorise dans les évaluations. Les bulletins scolaires sont chargés, puisqu'ils sont faits comme ça, c'est bien, les bulletins qui vont être utilisés désormais sont faits sur le modèle qui était recommandé par le référentiel d'éducation prioritaire, tant mieux. Les bulletins scolaires explicitent les acquis, les améliorations et les acquisitions attendues. Je pense que c'est quelque chose qui est acquis depuis un temps relativement certain, qui est bien installé dans le premier degré, qui va s'installer dans le second. Des évaluations diagnostiques à l'entrée d'un nouveau cycle. Alors là, on a eu faux. Là, on a eu faux, parce que c'est E2 et c'est pas l'entrée dans un nouveau cycle. Mais néanmoins, nous continuons de porter l'idée qu'il est important que les évaluations diagnostiques se fassent aussi à l'entrée des cycles. Que les évaluations diagnostiques, c'est un outil pédagogique pour l'enseignant. Ça peut se faire à l'entrée d'un cycle, ça peut se faire à l'entrée d'une classe. Ça peut se faire à l'entrée d'une nouvelle activité, ça peut se faire à n'importe quel moment. C'est à l'enseignant de décider à quel moment il lui paraît pertinent de développer des évaluations diagnostiques. Là-dessus, je crois qu'il faut qu'on soit clair. C'est très bien qu'il y en ait à l'entrée du CE2, c'est très bien qu'il y ait des outils mis à disposition. On peut d'ailleurs tous récupérer, si on le souhaite, les outils de l'évaluation à l'entrée en sixième. Ils sont aussi disponibles sur d'autres sites Internet. Toutes les évaluations que l'ADEP avait produites du temps où il y avait des évaluations CE2 et sixième. On peut aussi récupérer des outils de l'évaluation au CE1, de l'évaluation au CM1, il y en a eu. Il y a même eu une année où l'ADEP avait fait des évaluations à l'entrée en cinquième et à l'entrée en seconde. Donc, si vous voulez, on a des outils d'évaluation dans la banque outils de l'ADEP. Des outils d'évaluation, on n'en manque pas pour faire des évaluations diagnostiques. Le tout, c'est que nous avons intérêt en éducation prioritaire à ce que quand on fait des évaluations diagnostiques, ce soit dans le cadre d'un partage professionnel. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. On a des évaluations élaborées par les enseignants, corrigées à plusieurs. Voilà. Élaborées par les enseignants, c'est-à-dire que dans le processus de travail, il est important, ne semblait-il, que nos collègues produisent eux-mêmes les évaluations qu'ils utilisent. Parce qu'aussi, ils savent ce qu'ils enseignent. Et donc, pour évaluer correctement par rapport à quelque chose qui a été enseigné, il vaut mieux utiliser des évaluations qu'on élabore soi-même par rapport à ce qu'on a véritablement enseigné. On a recommandé aussi que par rapport aux objectifs terminaux, et là, je suis plus dans l'évaluation certificative, par rapport aux objectifs de certification, il y ait bien des devoirs communs et des brevets blancs. Des devoirs communs et des brevets blancs. Parce qu'il nous semble que c'est important que les élèves, dans les moments où il va y avoir des évaluations officialisées, soient en posture de les réussir. Et qu'on ne me dise pas, qu'on n'utilise pas, s'il vous plaît, le mot « bachotage ». Avec un air négatif. On l'a tous fait. J'espère, en tout cas. À un moment ou à un autre. Répéter, on l'a tous fait. Et ça nous a peut-être plutôt réussi si nous sommes là. Voilà. Donc, si vous voulez, bachotage, c'est d'ailleurs c'est la même chose quand on dit les gens bricolent. J'aime pas qu'on dise ça avec un air négatif, si vous voulez. Le bricolage, le bachotage, c'est noble. Voilà. C'est pas ignoble. Parce que le contraire de noble, c'est ignoble. On l'oublie quelquefois. Mais voilà. Donc, n'hésitons pas à dire qu'il faut que nos élèves soient entraînés par rapport à des épreuves qu'ils ont à passer. Comment croyez-vous que réussissaient les enseignants du certificat d'études dans les années 30. Par exemple, en mathématiques, ce qui a été montré, notamment par des travaux de l'ADEP, qui ont comparé les résultats en mathématiques des élèves de la Somme en 1925 et des élèves de 5e de la Somme aujourd'hui, c'est le même âge, hein, fin d'études, 14 ans, 5e, 14 ans. Ce qu'ils ont montré, c'est que les gosses de l'époque réussissaient brillamment, à ceux de 5e aujourd'hui ont plus de mal, parce qu'il y avait 12 structures de problèmes qui étaient toutes strictement identiques et qu'ils répétaient les 12 structures de problèmes. Donc les résultats, effectivement, étaient bons puisqu'ils savaient qu'ils allaient tomber sur une de ces 12 structures de problèmes, quel qu'ait été l'habillage du problème. Et donc ça, c'est intéressant à voir, c'est qu'il y a quand même aussi des logiques d'entraînement utiles et des logiques d'entraînement pertinentes si nous voulons voir nos élèves réussir à des examens. Ça n'est pas scandaleux de le faire. Alors, dans la partie consacrée au suivi des élèves, dans l'axe 2, attendez, je reviens plutôt à l'axe 1 d'abord. Il me semblait que j'avais oublié quelque chose. Si nous revenons dans le premier axe du référentiel, est utilisé un verbe qui renvoie au processus d'évaluation. Le verbe « vérifie ». Pour vérifier, il faut regarder, observer, mesurer. Il y a quelque chose à faire. L'élève vérifie lui-même après la leçon qu'il a retenu ce qu'il fallait. Je pense que c'est un point dont vous reparlerez quand on parlera explicitation. Vérifier qu'on a bien retenu ce qu'il fallait retenir, ça peut-être suppose un petit peu qu'on soit aidé à le faire. Comment l'aider à cela? Quels outils d'autocontrôle lui fournir? Il y a sans doute un travail à faire. Et puis, la vérification de la compréhension de tous les élèves est régulière. Vérifier la compréhension des élèves, c'est bien évaluer. Si je garde toujours ma définition de tout à l'heure, hein, prélever une information qui est utile à quelque chose. Je vérifie s'ils ont compris. C'est un besoin. Ils ont compris, ils n'ont pas compris. S'ils n'ont pas compris, je m'efforce qu'ils comprennent. C'est-à-dire, je vérifie, l'évaluation a pour objet l'utilité de la compréhension des élèves. Enfin, c'est très banal ce que je dis. Hein. Mais en même temps, je pense que c'est mieux que ce soit écrit dans le référentiel et qu'on se rappelle que c'est quand même l'essentiel. Dans la partie consacrée au suivi des élèves dans l'axe 2, il est aussi question des signes du décrochage scolaire. Pour voir des signes de décrochage scolaire, il faut une vigilance évaluative. Si on n'est pas vigilant sur la façon dont les enfants accrochent aux apprentissages qu'on leur propose, on ne risque pas de repérer les décrocheurs scolaires. Être attentif à des signes, les repérer, construire peut-être des listes de signes qui nous préoccupent par rapport à la question du décrochage scolaire. Dans l'axe 3, dans la partie consacrée aux parents, il est recommandé de remettre les résultats des évaluations ou des bulletins en main propre aux parents. C'est aussi un point important de la pratique. Dans l'axe 4, il est évoqué, et là c'est évoqué de manière explicite, l'évaluation collégiale du projet de réseau. On a vu tout à l'heure, ce matin, on a vu avec un exemple pris au collège que ce n'était pas forcément simple de faire de l'évaluation collégiale ou de préparer collégialement un projet de réseau. Alors en faire l'évaluation collégiale, c'est encore un exercice qui demande de la pugnacité, on va dire. De la pugnacité. Mais je ne doute pas que les équipes de pilotage et vous-même soyez pugnaces. Donc on y arrivera. Mais en tout cas, il va falloir penser comment on évalue un projet. Mettre en évidence, moi je vois trois choses, si vous voulez, trois choses pour évaluer un projet. C'est d'abord, la première chose, c'est de mettre en évidence ce qu'on a vraiment fait. Parce que comment évaluer un projet si on ne sait pas ce qu'on a fait ? Or, quand on a un projet, on se l'est dit tout à l'heure, hein, ou quand on fait une préparation de classe, c'est la même chose. On ne fait pas forcément ce qu'on a écrit qu'on ferait. Parfois, on fait autre chose, parce qu'on est à un moment donné entraîné vers une autre piste. Et c'est normal que ce soit comme ça. En revanche, c'est important d'avoir le retour sur ce qu'on a vraiment fait. C'est-à-dire de noter ce qu'on fait. Et de se dire, ben voilà, j'ai mon bilan de projet, en quelque sorte, pour paraphraser le bilan de savoir de certains. J'ai mon bilan de projet. J'écris ce qu'on a vraiment fait dans le projet. Ensuite, il faut mettre en évidence les effets que l'on a obtenus. Les effets que l'on a obtenus, alors, si on le peut, si on a construit les méthodologies en amont qui permettent de le faire, les effets qu'on a obtenus sur les apprentissages des élèves, c'est évidemment souhaitable. Mais on peut aussi avoir obtenu des effets sur le travail des professeurs, sur le travail partagé. On peut aussi avoir eu des effets sur les relations avec les partenaires. Dans un projet de réseau, on peut avoir eu des effets qui ne sont pas que sur les résultats des élèves, mais qu'il est intéressant de mettre en évidence. Et puis, mettre en relation les uns avec les autres, c'est-à-dire mettre en relation ce qu'on a vraiment fait et les résultats qu'on a obtenus, ça permet de valider les démarches qu'on a prises. Je ne sais pas si c'est clair, ça. Oui ? Ça va ? Donc, si on trouve que ça s'est bien passé, c'est-à-dire que si, avec ce qu'on a fait, on a obtenu les résultats qu'on souhaitait, eh bien, on le conforte, on le consolide, on le renforce. Toujours renforcer ses points forts. Toujours renforcer ses points forts. Un grand principe. C'est l'art de la guerre. Hein. Si on trouve qu'on n'a pas exactement obtenu ce qu'on avait, ben on régule, c'est-à-dire on modifie ce qu'on avait initialement fait en se disant on va le faire évoluer, on va l'améliorer comme ci ou comme ça. Il est évoqué aussi, puis j'y reviendrai ça tout à l'heure, l'analyse partagée des difficultés des élèves et la préparation et l'analyse commune de séquences d'évaluation. Ça, j'y reviendrai pour terminer. Dans l'axe 6 du référentiel, il est aussi rappelé que le projet de réseau est conduit sur la base du référentiel, qui constitue une référence, et sur la base des analyses conduites localement. Et il n'y a que ceux qui vivent localement qui peuvent conduire les analyses locales. avec des outils, avec des appuis, avec des aides. Mais si vous voulez qu'il y ait une appropriation véritable de la situation en vue d'un projet pertinent, il faut bien que ce soit ceux qui doivent conduire l'action qui conduisent l'analyse de la situation dans laquelle ils se trouvent. Le référentiel est un appui pour ça. Puis il y a des tas d'autres outils disponibles. Vous en retrouvez, on a déjà peut-être parlé de certains autres de ces outils. Pour moi, le mot « analyse » est un mot qui renvoie au processus évaluatif. C'est aussi de l'évaluation qu'analyser une situation, puisque c'est fournir une information qui sera utile à quelque chose. Donc l'évaluation du projet de réseau est évoquée explicitement, hein, auto-évaluation sur la base du référentiel, les tableaux de bord qui permettent de suivre l'action, de se situer par rapport à des indicateurs, les suivis de cohorte, le suivi des résultats, pour lesquels, évidemment, il faut se donner des outils. Enfin, il est évoqué la valorisation des résultats obtenus. Ça veut dire qu'il faut disposer d'informations sur les résultats obtenus, donc il faut avoir évalué les résultats autant qu'il est possible. Et ça veut dire aussi qu'il faut valoriser les bons résultats obtenus. Puisque l'idée, c'est de valoriser aux yeux du grand public. Hein. On était dans l'idée qu'à un moment donné, on ne peut pas ne pas se soumettre à la société de communication. À un moment donné, elle existe, elle est comme elle est, donc on produit des résultats. Donc ce que vous voyez, c'est que ce tour d'horizon nous rappelle finalement que les processus évaluatifs sont très nombreux, qu'ils méritent une attention, une certaine vigilance de notre part, qu'il faut bien les situer à chaque fois que c'est nécessaire, pour ne pas se tromper de fonction de l'évaluation. Je pense que c'est un point qui est important. Alors, je termine avec la dernière partie de mon intervention et j'aurai aussi tenu le temps, ça va. Ça nous permettra d'échanger après. La dernière partie de mon intervention va revenir maintenant sur quelques propositions que nous pouvons vous faire sur un aspect qui est très limité volontairement, mais qui nous semble très stratégique. Très stratégique. Et là, c'est parce que vous êtes formateur, que ça nous semble très stratégique que vous puissiez progressivement développer ça. C'est l'usage des productions et ou des évaluations des élèves. Prenez ce que vous voulez, les élèves produisent des choses qui sont susceptibles d'être évaluées ou dans le cadre d'évaluation, ils produisent des choses. Et utiliser ces productions ou ces évaluations dans une perspective de formation des professeurs. Que ces productions soient des productions au cours des activités d'apprentissage, au cours d'évaluation diagnostique, au cours d'évaluation certificative, ça m'est égal. Je pense qu'on peut toujours utiliser des productions d'élèves, quelles que soient les conditions. L'essentiel, c'est de connaître dans quelles conditions elles ont été produites. Mais ensuite, on peut les exploiter, comme on l'entend, pour faire de la formation. L'essentiel, c'est d'en connaître le contexte en vue de faire de la formation. L'idée de base de ce qu'on vous propose là, parce qu'on en a beaucoup parlé avec Michel qui a pratiqué ça, moi je l'ai pratiqué aussi un peu dans une vie antérieure, c'est que analyser à plusieurs des productions choisies, c'est un processus de formation. C'est-à-dire que nous sommes convaincus que quand on se met autour d'une table à plusieurs adultes qui observent des productions d'élèves avec leurs regards croisés, c'est une conception de la formation comme accompagnement professionnel. Hein, c'est une forme d'accompagnement professionnel. Ça permet de confronter des avis sur une situation de production, déjà, parce que quand on interroge des productions d'élèves, on interroge déjà la situation de production dans laquelle on a mis les élèves. Ça nous paraît très intéressant aussi d'observer les différentes manières possibles d'observer la production, c'est-à-dire selon qui on est, quel professeur on est, on ne va pas avoir le même regard sur la production en question, sur l'élaboration qui a amené l'élève à produire ce qu'il a produit, sur le résultat, sur ce qu'on peut faire en conséquence. Et voilà. Donc, on peut concevoir à cet égard des situations de formation en appui sur des occasions très diverses. On peut aussi construire les occasions en vue de la formation. Ça vous appartient de penser comme vous l'entendez la chose. On peut en faire un processus d'évaluation éventuellement élaboré. Le référentiel dit l'analyse partagée des difficultés des élèves. Puisque nous savons qu'une des difficultés des professeurs dans l'éducation prioritaire, c'est de bien comprendre, connaître et aller vers les difficultés des élèves. Au départ, les professeurs qui arrivent en éducation prioritaire sont surpris par les difficultés des élèves qu'ils ne comprennent pas. Donc, se donner des temps de travail pour analyser les difficultés des élèves en les partageant avec des collègues plus expérimentés, avec des formateurs, ça nous paraît très pertinent. Alors, on peut faire avec des élèves en situation de réaliser une tâche, c'est-à-dire on peut observer des élèves au travail. Ça a été évoqué hein, tout à l'heure. On observe des professeurs au travail, mais du coup, on observe aussi des élèves au travail quand on fait ces regards croisés sur les élèves au travail. On peut, par exemple, ensemble préparer, affiner une grille d'observation au fur et à mesure du travail. On peut adapter des observations à la diversité des tâches observées. Enfin, il y a tout un travail possible de ce côté-là, du côté d'une évaluation par observation. On peut aussi partager un objectif de mise en évidence des erreurs des élèves pour se dire comment les aider à rectifier les processus qui les mènent à l'erreur. Si on voit qu'il y a des erreurs récurrentes, par exemple, dans certaines activités, on peut travailler sur cette question à prendre conscience qu'il y a une erreur, comment on va rectifier les erreurs. On peut construire ensemble une conception dynamique du traitement des erreurs qui donne toute sa place à l'amélioration de l'autonomie de l'élève. On regarde sa production aussi. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour petit à petit rendre l'élève plus autonome vis-à-vis de ses propres erreurs, le donner capacité à repérer des erreurs et à régler les erreurs. Le référentiel dit aussi préparer et analyser ensemble des évaluations. Alors ça peut valoir pour des évaluations diagnostiques, pour des évaluations certificatives du type brevet blanc, faire travailler ensemble les professeurs d'une même discipline sur l'élaboration des preuves communes, ça peut être tout à fait intéressant. De la même manière, corriger ensemble en confrontant les points de vue, c'est une activité qui fait évoluer la conscience que les correcteurs ont des problèmes posés. Je veux évoquer pour terminer deux processus de travail qui me semblent particulièrement intéressants. Le premier concerne des épreuves communes à un cycle, puisqu'on a dit que c'était souhaitable qu'il y ait des épreuves communes à un cycle. Et le second, c'est un processus de travail qui est proposé par Jean-François Chesnais de l'ADEP qui s'appelle PASEM. Peut-être que tout le monde n'a pas encore entendu parler de PASEM, j'en étais pas très sûr. Je ne sais plus si on en avait parlé de façon approfondie ou pas, mais je vais en reparler quand même. Parce qu'après tout, la répétition, c'est aussi un élément de la pédagogie. Si l'on veut assurer la continuité éducative et pédagogique du cycle 3, et je centre sur le cycle 3, parce que c'est quand même le lieu de beaucoup de nos difficultés, je pense que vous le percevez, et je pense que ça serait très intéressant que vous puissiez, notamment dans le cadre de ce que vous ferez autour de la réforme du collège, être le plus possible porteur du cycle 3, vous avez vocation à l'être en tout cas, intéressant de faire travailler ensemble les professeurs de CM1, CM2 et 6e, ensemble sur une même épreuve qu'on donne aux élèves de CM1, CM2 et 6e. Ça ne pose aucun problème, qu'on ne vous dise pas que ça pose des problèmes. C'est, nous l'avons fait. Hein. Je veux dire que ce n'est pas quelque chose que j'invente sans expérience en background, notamment, par exemple, sur des productions écrites. Donner aux élèves une consigne d'écriture, produire un écrit, en CM1, au CM2, en 6e, on peut très bien utiliser le même outil. On peut, par exemple, utiliser les outils de l'évaluation à l'entrée en 6e, tels qu'ils sont encore disponibles. Il y en avait de très bons, il y avait des épreuves dont je rappelle que toutes ces épreuves avaient été produites par des collègues sur le terrain. Ce n'était pas des inventions de l'ADEP en cabinet. Hein. Moi, j'ai coordonné des groupes de travail de collègues qui travaillaient sur la production des évaluations CE2 et 6e. Je pense que c'est quelque chose qui serait souhaitable de faire revenir un peu, parce que ça nous donnait quand même aussi des références partagées sur ce que c'était que le niveau attendu à l'entrée en 6e. C'était quand même intéressant pour la discussion qu'on pouvait avoir entre CM2 et 6e. À l'époque, c'était surtout CM2 et 6e. Aujourd'hui, c'est CM1, CM2, 6e. On voit bien qu'on peut faire quelque chose autour de ça. Une fois qu'on a fait écrire les élèves de CM1, CM2 et 6e, comme on est très coquin, on anonyme. On ne dit pas si c'est du CM1, du CM2 ou de la 6e, Puis on ne met pas les noms, bien sûr. Mais on se donne la possibilité d'y revenir quand même. Il suffit de numéroter, puis de mettre en face des numéros la classe et le nom. Et puis on y va. Après, on regarde. On travaille ensemble à regarder les textes qui ont été évidemment mélangés, les productions qui ont été évidemment mélangées. Et on voit très bien un certain nombre de choses. On peut faire des petits jeux, c'est-à-dire on peut demander est-ce que vous êtes capable de dire si c'est un élève de CM1, de CM2 ou de 6e ? Faire des paris. Et on peut faire des tas de choses amusantes autour de ça. On peut demander à deux correcteurs de travailler ensemble sur quelques productions d'élèves. Je dis des correcteurs parce que c'est souvent l'idée qu'on en a, c'est qu'il s'agit de corriger des copies. Hein. Bon, en l'occurrence, deux évaluateurs qui vont observer les copies. Donc, on peut confronter à partir de ça, dans une confrontation outillée, avec une grille ou sans grille. On peut très bien avoir travaillé ensemble sur une grille d'observation des textes, en fonction de la consigne d'écriture donnée. En fonction de la consigne d'écriture, on crée une grille ensemble, et puis on va appliquer la grille au moment où on va travailler sur les copies anonymées. On peut, à partir de ça, travailler ensemble à estimer ce qu'on considère comme exigible au CM1, exigible au CM2, exigible en 6e, c'est-à-dire commencer à penser une programmation de cycle sur cet objet de la production écrite. On peut aussi, à partir de là, s'amuser à confronter les observations qu'on a faites anonymement avec ce qu'on connaît des élèves. Ça peut être assez stimulant. Ça peut éventuellement aider à changer une idée qu'on avait sur un élève. Pourquoi pas ? Et voilà, mais il faut accepter, il faut que tout le monde accepte de jouer le jeu. On peut aussi confronter les manières de concevoir les évaluations dans le cadre de la production écrite. Parce que produire un écrit, ce n'est pas conçu de la même manière par tout le monde. Alors, juste une petite précision aussi, il y a un truc qu'on faisait qui n'était pas inintéressant parfois pour évaluer des productions d'écrits des élèves. Je vous le livre parce que c'est un vieux souvenir, c'était recommandé. Bon, je pense qu'Elisabeth Bautier serait là, elle s'y reconnaîtrait peut-être un peu. En tout cas, ça a été recommandé à une époque. C'était pour étudier correctement une production écrite d'un élève, nettoyer le texte avant de l'étudier. C'est-à-dire le taper à la machine pour qu'il n'y ait plus la barrage de l'écriture. Oui, je vais... Bien. Donc, nettoyer le texte, c'est-à-dire, par exemple, le taper à la machine pour qu'il n'y ait pas l'écriture, parce que la qualité de la graphie d'un élève, qui n'est pas l'objet de la production écrite, c'est pas l'objet de la production écrite, c'est pas la graphie. Si on veut faire des activités de graphie, on peut en faire d'autres. Ça peut gêner le lecteur. Et puis, d'un autre côté, on peut le nettoyer des fautes d'orthographe aussi, parce que l'orthographe, c'est pas non plus forcément le principal objet de la production écrite. Le principal objet de la production écrite, c'est l'écrit. C'est être capable de construire un écrit. Et donc, quand on fait cette activité de nettoyage des textes, on s'aperçoit qu'on ne voit plus les textes exactement du même œil. Et que des stéréotypes qu'on peut se faire à partir d'une mauvaise graphie et d'une mauvaise orthographe, on peut tout d'un coup découvrir qu'un élève, en termes de production d'écrit, finalement, il n'est pas si mal que ça. On a pris un peu de distance. Vous voyez ? Voilà. En ce qui concerne PASSEM, alors vous avez sur PASSEM... PASSEM CM1, PASSEM 6e, deux notes de l'ADEP. PASSEM, ça veut dire projet pour l'acquisition de compétences par les élèves en mathématiques. Ah. Peu importe. Ce qui est intéressant dans PASSEM, c'est la méthodologie utilisée par les collègues qui ont inventé PASSEM, c'est-à-dire c'est Jean-François Chesnay, qui travaille désormais au CNESCO sur les questions d'évaluation du système. Que tirer des évaluations pour enrichir les pratiques pédagogiques ? C'est ça la question de PASSEM. Donc le principe de PASSEM, c'est on fait dans la classe un test en début d'année sur les objets mathématiques qu'on veut travailler, les objets de savoir qu'on veut travailler, ça peut être en mathématiques, mais ça pourrait être autre chose. Ça sert à la fois de connaissance du niveau des élèves au départ et de support pour réfléchir aux besoins des élèves. Vous voyez, c'est une évaluation de départ. Elle va servir comme évaluation de départ. On va pouvoir comparer à la fin. Et en même temps, elle sert d'évaluation diagnostique. C'est-à-dire, elle dit, voilà, les élèves, ils ont cette difficulté, tel besoin. On voit, on repère, on analyse, on discute. Et on travaille ensemble dans un processus de formation. Et tout au long de l'année, les formateurs accompagnent les enseignants sur ces apprentissages mathématiques, tout au long de l'année. Et à la fin de l'année, on fait un test de fin d'année pour mettre en évidence les progrès réalisés par rapport aux séquences d'enseignement qui ont été données aux élèves avec les outils qu'on a produits tout au cours de l'année ensemble. Et je trouve ce dispositif de formation extrêmement intéressant. Et par ailleurs, ce qu'il y a de plus intéressant aussi, c'est qu'il a fait la preuve de son efficacité. C'est-à-dire qu'on a avec PACEM, et vous pouvez lire les deux notes de l'ADEP, qui sont les notes 12-16 et 12-23, c'est-à-dire de 2012, hein, c'est des notes de 2012, 12-16, 12-23, ces deux notes sont très convaincantes quant à l'évolution des progrès des élèves. Et je pense que c'est ça que nous devons rechercher ensemble, et que vous devrez aussi rechercher dans ce que vous allez faire sur la question d'évaluation, c'est comment des évaluations valident nos procédures de travail, valide ce que nous faisons pour nos élèves. Je vous remercie de votre attention.